Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'histoire de France pour les nuls » de Jean-Joseph Julot. C'est un ouvrage de vulgarisation historique qui propose un parcours chronologique de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Il ne s'agit ni d'une monographie savante ni d'un manuel scolaire centré sur un programme précis. Son ambition est d'offrir des repères solides à des lecteurs souhaitant comprendre la formation du territoire, de l'État et de la société française. Ancien enseignant, Julot adopte les codes de la collection pour les nuls, langage direct, progression lisible, humour ponctuel et mise en valeur de faits mémorables. Le récit relie les grandes ruptures, romanisation de la Gaule, monarchie, révolution, empire, république et guerre mondiale, à des figures et à des événements connus. Selon les éditions, l'ensemble est enrichi d'illustrations, de portraits, d'anecdotes et de dispositifs de révision. Le livre vise donc moins l'exhaustivité universitaire que l'acquisition d'une vue d'ensemble cohérente, accessible et durablement utilisable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une chronologie continue pour relier la Gaule, le Royaume de France et la République. Le principe organisateur du livre est la longue durée. Jean-Joseph Julot conduit le lecteur depuis les premières occupations humaines du territoire et la Gaule jusqu'aux institutions et aux enjeux de la France contemporaine. Cette continuité répond à une difficulté fréquente. Beaucoup de lecteurs connaissent des dates, des souverains ou des batailles isolées sans percevoir les liens entre les périodes. Ici, la conquête romaine, l'installation des royaumes francs, l'affermissement capétien, les crises de la fin du Moyen-Âge. La centralisation monarchique et les transformations révolutionnaires apparaissent comme des étapes successives, sans être présentées comme inévitables. Le passage d'une époque à l'autre est essentiel, il permet de comprendre pourquoi l'État français ne naît pas d'un seul événement, mais de conflits, d'alliances, de constructions administratives et de recompositions territoriales. Les repères célèbres, tels qu'Alésia, Azincourt, la Révolution ou Austerlitz, servent ainsi de point d'entrée dans des évolutions plus vastes. Cette méthode est particulièrement utile pour consolider une culture générale, elle replace les personnages illustres dans leur contexte et donne une architecture temporelle à un sujet souvent appris de manière fragmentée. La contrepartie est inhérente au format panoramique, les controverses historiographiques et les réalités locales ne peuvent être développées avec la profondeur d'études spécialisées. Deuxièmement, les grands événements sont expliqués comme des ruptures politiques et sociales, l'ouvrage s'appuie sur les moments canoniques de l'histoire de France. Mais sa fonction n'est pas seulement de les rappeler. Les épisodes militaires, dynastiques et institutionnels y deviennent des moyens de suivre les changements de pouvoir et de société. La Révolution française, par exemple, ne se réduit pas à une succession de journées emblématiques, elle constitue un point de bascule dans le rapport aux privilèges, à la souveraineté et à la citoyenneté. De même, les régimes napoléoniens, les restaurations monarchiques et les républiques successives permettent de saisir la difficulté à stabiliser durablement un ordre politique après 1789. Les guerres mondiales élargissent ensuite la perspective, elles ne sont pas seulement des conflits à mémoriser, mais des expériences qui transforment l'État, les frontières, la vie collective et la place de la France dans le monde. Cette focalisation sur les ruptures aide le lecteur débutant à distinguer les événements structurants des simples détails pittoresques. Elle évite aussi de traiter l'histoire comme une galerie de héros, les décisions des dirigeants prennent sens à travers des cadres institutionnels, des rapports de force et des conséquences collectives. Le livre privilégie donc une compréhension synthétique des mécanismes historiques, même si son format impose de simplifier certains débats sur les causes et les interprétations de ces transformations. Troisièmement, des personnages célèbres utilisés comme repères plutôt que comme unique moteur de l'histoire. Julot fait largement place aux figures qui structurent la mémoire historique française Clovis, les souverains capétiens Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle et d'autres dirigeants associés au grand tournant du récit national. Ce choix répond à une nécessité pédagogique. Les personnages offrent des repères simples dans une chronologie très étendue et facilitent l'entrée dans des périodes dont les institutions peuvent sembler abstraites. Cependant, l'intérêt du procédé réside surtout dans le fait de relier ces figures aux problèmes de leur temps. Un roi n'est pas seulement un nom de règne, il renvoie aux relations entre la couronne, les nobles, l'église, les villes ou les puissances rivales. Napoléon ne se comprend pas indépendamment de l'héritage révolutionnaire et des guerres européennes. De Gaulle s'inscrit dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Libération et de la Ve République. Cette articulation entre biographies et contextes limite, autant que possible, l'illusion selon laquelle quelques individus expliqueraient seuls plusieurs siècles d'histoire. Elle donne également au lecteur des points de mémorisation sans renoncer à la complexité minimale des situations. Le risque d'un tel panorama reste celui d'accorder naturellement plus de visibilité aux dirigeants qu'aux groupes sociaux moins présents dans les sources et les récits traditionnels. Le livre constitue donc un socle d'orientation à compléter par des lectures consacrées à l'histoire sociale, culturelle, coloniale ou régionale. Quatrièmement, une vulgarisation fondée sur la clarté, les anecdotes et les supports visuels. La singularité éditoriale de l'Histoire de France pour les nuls tient à sa volonté de rendre un contenu dense lisible sans adopter le ton impersonnel d'un précis académique. La collection repose sur une explication pas à pas. Un vocabulaire aussi peu technique que possible et des touches d'humour destinées à désamorcer l'appréhension que peut susciter l'histoire nationale. Julot emploie aussi des anecdotes et des portraits pour donner une présence concrète aux périodes évoquées. Ces éléments ne remplacent pas l'analyse. Ils jouent un rôle d'accroche et de mémorisation. Une information, incarnée par une scène, un personnage ou un détail insolite se retient plus aisément, à condition d'être réinscrite dans le fil des événements. Les éditions illustrées ajoutent gravures, peintures et photographies. Utile pour associer les transformations politiques à des représentations matérielles ou symboliques de leur époque. Des quiz ou des encadrés selon les versions prolongent cette logique en invitant le lecteur à vérifier ses repères. Cette pédagogie favorise une lecture discontinue, il est possible de consulter une période ou un événement particulier puis de revenir au récit général. Elle convient donc à l'auto-formation et à la révision. En revanche, le style accessible ne dispense pas d'un regard critique, une synthèse vivante sélectionne nécessairement ses exemples et ne remplace ni les sources ni les travaux. Historiographique approfondi. En dernier lieu, de la mémoire nationale aux enjeux contemporains, un panorama qui va au-delà des batailles. En couvrant une durée qui va de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Le livre permet de comprendre que l'histoire de France ne se limite pas à l'alternance des guerres et des règnes. La question centrale est aussi celle de la formation progressive d'un espace politique, d'institutions et d'une identité collective toujours changeante. Les conflits militaires demeurent présents parce qu'ils modifient les frontières, les pouvoirs et les sociétés. Mais ils prennent place dans un cadre plus large, incluant les évolutions des régimes, les rapports entre centre et périphérie, ainsi que les grandes recompositions du XXe siècle. L'évocation de la Ve République et de responsables politiques contemporains rappelle que le récit ne s'arrête pas à une France patrimoniale ou monarchique. Ce prolongement est important pour le lecteur, les institutions actuelles. Certains débats sur l'autorité de l'État ou la mémoire des conflits ont des antécédents qu'une chronologie générale aide à situer. Le livre ne prétend pas fournir une réponse définitive aux controverses présentes. Il apporte plutôt les jalons nécessaires pour éviter les analogies simplistes et les récits figés. Son apport consiste donc à faire percevoir l'histoire nationale comme une construction mouvante, issue de ruptures mais aussi de continuités. Pour approfondir les dimensions impériales, coloniales, migratoires ou sociales qui demandent des traitements spécifiques. Le lecteur gagnera néanmoins à prolonger ce premier panorama par des ouvrages spécialisés. En conclusion, l'Histoire de France pour les nuls s'adresse d'abord aux lecteurs qui veulent acquérir, retrouver ou remettre en ordre leurs connaissances sans entrer immédiatement dans la technicité des ouvrages universitaires. Elle peut être utile aux lycéens et étudiants en quête de repères généraux, aux adultes souhaitant réviser une culture historique longtemps laissée de côté, ainsi qu'aux lecteurs curieux qui cherchent un livre de consultation autant qu'un récit suivi. Son bénéfice pratique est de fournir une charpente chronologique après cette lecture. Les noms, dates et épisodes les plus connus peuvent plus facilement être reliés à des transformations politiques et sociales de longue durée. Son bénéfice intellectuel est d'encourager une perception moins morcelée du passé français, depuis la Gaule jusqu'aux institutions contemporaines. Ce qui distingue le livre dans sa catégorie est moins une thèse historique originale que la combinaison d'un vaste périmètre, d'une organisation accessible et d'outils de vulgarisation assumés, là où certains manuels privilégient la concision scolaire. Et où des histoires savantes supposent déjà de solides connaissances, Julot propose une médiation claire, animée par des portraits, des anecdotes et, selon les éditions, des illustrations et des quiz. Cette lisibilité n'élimine pas les limites du genre, un volume de synthèse ne peut exposer toutes les controverses ni accorder la même place à toutes les dimensions de l'histoire. Mais il remplit efficacement sa fonction de porte d'entrée. Il se lit idéalement comme un socle, puis comme un guide pour choisir des approfondissements sur une période, un groupe social ou un problème historique particulier. Si vous souhaitez soutenir Jean-Joseph Julot, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.